La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
Et bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Et oui, nous sommes, comme chaque année, partenaires de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. La REF 2022, on est ravis d'y être, hein, avec plein de belles choses. Aujourd'hui, donc, à présent, nous sommes sur notre plateau avec Sylvain Lévy-Valency, évidemment. Comment allez-vous, Sylvain ?
Ça va, Bérénice ?
Très bien.
Voilà, on est très heureux de faire ce lancement, qui est un peu notre grille de rentrée sur,
oui.
sur toutes nos radios, puis dans un contexte un peu particulier.
Eh bien, on est à l'Hippodrome de Longchamp, il fait beau, mais c'est vrai qu'on parle de sujets très sérieux.
Absolument.
Geoffroy Roux-de-Bézieux va faire un discours dans Absolument. Quelques instants, Elisabeth Borne aussi, pénurie d'énergie, une rentrée quand même assez tendue. On va en parler justement avec nos deux invités, deux entrepreneurs. À ma droite, Pierre-Alexandre Pillet, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Sowen.
Exactement.
Et à votre droite, Franck Le Gardeur, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Bonjour, vous allez bien ?
Super, merci et vous ?
Très bien. Co-fondateur de Delmonicos. Alors déjà pour commencer, je vais vous laisser chacun présenter brièvement votre entreprise. Alors on va commencer par Sowen.
Oui, très bien. Alors moi je suis Pierre-Alexandre Pillet, je suis le fondateur de Sowen. Nous, on est un aménageur d'espace de bureaux, espace tertiaire. Alors, on est dans une activité qui est assez exceptionnelle en ce moment puisque post-Covid, il y a eu pas mal de remaniements et de réflexions des chefs d'entreprise sur comment réaménager mes bureaux, impact télétravail, impact Covid, comment je garde les talents à l'intérieur de mes bureaux. Et tout ça continue depuis quelques années. Donc on a devant nous eu de très belles années 2021 et 2022 qui devraient s'achever correctement. Et sur 2023, on a en effet des réflexions qui sont plus tournées sur les démarches RSE, le RH. Tout ça qui est en flux tendu et qui est l'objet de la REF cette année notamment.
Le choix des matériaux, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants parce que c'est un problème aussi. Enfin,
le choix des matériaux, la pénurie de matériaux, impact inflation, tout ça, nous, on y est confrontés au jour le jour évidemment.
Et alors, Delmonicos, pouvez-vous nous présenter cette entreprise, Franck ?
Oui, bien sûr, Bérénice. Mais avant tout, il va falloir qu'on se parle tous les deux.
Parce que très bien.
Ce que vous venez de décrire m'intéresse beaucoup. Donc, il y a moyen qu'on apprenne de vous.
Alors, vous savez, chez Web Radio Édition, sur Radio Imo, etc., à chaque fois, on crée des contacts et les gens sont ravis. C'est ça.
Ça vaut beaucoup.
C'est ça qui est
beau. 10%.
Voilà, c'est ça. Il perd jamais le sens des affaires.
Alors, vous parlez de 10%, les 10% annoncés.
À virer sur le compte de Madame.
Ah, merci. J'apprécie.
C'est beau. C'est pour Bérénice, bien évidemment, on fera l'effort. Vous parlez des 10%, c'est les 10% dont ils ont fait référence sur lesquels il va falloir se serrer un peu la ceinture.
Je ne sais ça. Pas. Bon, tout à fait. Alors, écoutez, Delmonicos.
Alors, Delmonicos, en fait, nous, on utilise la technologie digitale au service de la borne de recharge pour faciliter l'accès à n'importe quel utilisateur de véhicules électriques de façon à ce qu'il puisse se recharger sans aucune complexité, sans aucune difficulté et avec une transparence tarifaire totale. C'est-à-dire qu'il va arriver devant une borne, il va pouvoir flasher un QR code, il va pouvoir lancer sa transaction. Il n'aura aucune mauvaise surprise et pourra repartir
Vous
avec
avez
le
inventé le premier GPS pour borne électrique.
Alors, ce n'est pas forcément lié à la géolocalisation de la borne, c'est simplement faciliter l'accès de paiement, puisqu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui est en place qui est un petit peu compliqué.
Mais est-ce que ça s'apparente à un terminal de paiement ?
On ne va même pas jusque-là. En fait, l'objectif pour nous, c'est le plug and charge.
D'accord.
C'est vivre l'expérience utilisateur extrême qui est de dire, j'arrive devant une borne, je branche mon véhicule. Une fois que le plein est fait ou quand j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir repartir, je débranche. Je n'ai même pas vu ma transaction de paiement,
c'est
fini.
C'est vous qui installez la borne ?
Alors, on n'est pas installateur de borne, mais notre objectif pour nous, c'est de mettre notre brique technologique au service des éditeurs de logiciels de supervision.
Et qui installe les bornes elles-mêmes physiquement ?
Qui n'installe pas forcément. D'accord. Vous savez, c'est tout un écosystème relativement complet, mais il y a des intégrateurs qui font très bien le boulot.
Donc, en fait, vous êtes la brique facilitateur paiement de toute cette complexité de
chaîne. On va dire qu'on est la brique sobriété de la voiture électrique.
Okay.
Ça vous va, ça ?
Quand on voit l'actualité avec la fin des moteurs thermiques prévue en 2035, hein, qui a ébranlé tout le monde. Hein, Luc Châtel s'en est beaucoup ému d'ailleurs sur BFM.
BFM Business.
Ouais. En parlant d'un non-sens absolu, il n'a pas tout à fait tort.
Il a utilisé le mot, je crois, sabordage industriel.
Depuis lundi d'ailleurs, depuis cette semaine, dans Paris, maintenant, même les véhicules, les scooters paieront 35 € par jour s'ils ne s'acquittent pas du péage. Qu'en 2026, jusqu'à 2028, il n'y aura plus de moteurs diesel et de moteurs électriques dans Paris.
Dans Lyon.
Qui a 11 villes qui ont signé le protocole. Ouais, c'est ça. Ça va bien chez Delmonico's, là. Vous êtes.
Bah écoutez, je ne vends pas de voiture électrique, moi. Hein, donc,
oui, mais enfin,
pas encore. Mais pas encore.
Ça va être générateur, finalement, de flash code de paiement pour vous.
Non, mais effectivement, c'est tout un écosystème, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais vous avez senti le vent venir, donc c'est bien.
Je ne sais pas si on a senti le vent
et
venir.
Et ça continue, en tout cas. Hein, aujourd'hui. Je crois que c'est à partir d'aujourd'hui l'autorisation des voitures de catégorie 3 autonomes. C'est ça, hein, électrique. Ouais, c'est-à-dire, c'est bon, ça va jusqu'à 5, hein, les catégories.
Ça va jusqu'à 5.
C'est qu'on ne touche plus le volant, on ne fait plus rien.
Voilà.
La 3, bon, c'est quand même bien. Et c'est, en revanche, c'est en dessous de 60 km/h, il me semble. Donc ça va dans votre.
Alors, nous, on a des éléments qui composent tout cet écosystème. Mais encore une fois, le véhicule électrique, Luc Châtel l'a dit. On n'a pas le choix, on y va tout droit. De toute façon, c'est une obligation selon la loi CAFE pour lesquelles
électrique
les fabricants...
Électrique et à hydrogène. Ouais. Et y a
sans émission de gaz à effet de serre, en fait, voilà, sans émission de CO2. Voilà, zéro émission, si on veut, si on peut simplifier les choses. Et donc, c'est une obligation. Donc, les gens, vous, moi, demain, on va tous rouler en électrique. Et alors, charger à la maison, ça va, c'est encore relativement facile, dans la mesure où on aura l'énergie. C'est pour ça qu'il faut amener un petit peu d'intelligence aussi à tout ça, pour éviter que tout le monde se charge en même temps et qu'on mette les centrales à genoux, hein, puisqu'on va en parler. La crise énergétique, ça arrive.
On est déjà dedans. Hein.
On est dedans. On nous a déjà prévenus. Hein, va falloir faire 10% d'économie. Alors, moi, j'aime bien quand on me parle d'économie, mais déjà, pour comprendre où est-ce qu'on peut faire de l'économie, ce qui est intéressant, c'est de savoir déjà comment est-ce qu'on consomme son énergie. Si déjà les entreprises savaient comment elles consomment, à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à dire « Ok, je peux faire des économies sur tel ou tel secteur. »
Il faut savoir avant d'éduquer.
Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas cette vision claire, et ça fait partie des fondamentaux de l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle le cycle de l'efficacité énergétique. La première chose, c'est je dois savoir ce que je consomme. Une fois que je sais sur ce que je consomme, je sais sur quoi je peux agir. Et après, on va rentrer soit dans de l'efficacité énergétique passive ou active. Passive, on va éduquer les gens sur le fait de changer de comportement. Dès qu'on voit ce qu'on consomme, dès qu'on voit comment on consomme, eh ben, ça influe sur le comportement des gens. Okay, ouais. Et l'efficacité énergétique active, là, on va remplacer, par exemple, une solution qui était énergivore par une solution moins énergivore. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la chaîne du cycle de l'efficacité énergétique. Mais après, il faut continuer à mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on a ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc, les gens se laissent... Ah, c'est de la LED, c'est pas grave, j'éteins plus la lumière. Je vous donne juste un exemple. Mmh. Mais le principe, il est là. Donc, quand on dit on va faire 10% d'économie, ça dépend des industries, ça dépend où on se trouve. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous des entrepreneurs. On sait que si on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'économie, on ne peut pas avancer. Donc, il faudra serrer la ceinture, on le fera.
Tout le monde doit s'y mettre, en tout
mais
cas.
Tout le monde doit s'y mettre.
Tout le monde doit s'y mettre.
Et je pense qu'il faut beaucoup d'éducation de ce côté-là. Voilà.
L'éducation, ça c'est vrai, c'est le mot d'ordre, en tout cas. Pour Sowen, comment ça se passe? Parce que les entreprises qui font appel à vous sont aussi dans cette démarche, justement, d'économie d'énergie, de réaménagement. Alors, on parlait du choix des matériaux tout à l'heure. Le seconde main. Ouais. C'est quelque chose que vous utilisez tous les jours, au final. Alors, comment ça se passe?
Finalement, les entreprises, je crois, sont toutes engagées à l'économie d'énergie depuis quelques années. Elles ont toutes cet objectif-là. On ne peut pas penser qu'une entreprise va consommer pour consommer. Il n'y a pas de sens. Donc, elles ont toutes pris en charge, en fait, cette démarche-là.
Elles ont toutes conscience de ça?
Elles ont globalement toutes conscience de ça, ça c'est clair. Et la première démarche qu'elles ont faite, en tout cas dans la partie immobilière, c'est de trouver des bâtiments qui étaient plus adaptés et moins énergivores. Donc il y a tous ces nouveaux bâtiments, surtout Défense, Péri-Défense et Parisien, qui ont été réadaptés avec des labels environnementaux forts. Et tout
d'ailleurs,
ça,
on s'y perd un peu dans les labels, il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a beaucoup, et même nous, on s'y perd. Donc,
il y en a beaucoup.
Ça, voilà. C'est clair. En tout cas, ce qui est déjà bien, c'est qu'elles ont cette démarche-là. Alors, il peut y avoir un effet de com, ça c'est certain. C'est-à-dire que les entreprises cherchent aussi les environnementaux pour avoir une communication positive sur leur démarche RSE, etc.
Parfois un peu du greenwashing, d'ailleurs.
Exactement. Et là, on va glisser sur le terrain RH, puisque certaines entreprises qui s'implantent dans Paris et Paris-Défense cherchent à attirer des talents ou à les retenir. Et les démarches d'aller dans des bâtiments performants en fait partie. Mais pour en revenir à votre sujet sur la seconde main, quand nous, on aménage des entreprises, évidemment, on essaye de promouvoir la seconde main, ce qui est encore une filière qui n'est pas complètement je dirais, structurée.
Mais ça commence. Hein,
ça commence. Il y a des acteurs qui sont structurés, mais dans la démarche d'aménagement, le processus est tel qu'il n'est pas toujours évident, en tout cas dans la partie construction, de l'implémenter, je dirais, dans l'aménagement. Là où on commence à avoir des acteurs qui sont beaucoup plus, qui répondent mieux à la demande, c'est sur la partie mobilière. quand les gens cherchent à, je dirais, à changer leur mobilier, etc., ils trouvent des produits de seconde main où on les trouve pour eux,
d'accord,
justement pour avoir cette démarche. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que il y a une obligation qui est en cours ou qui va arriver au niveau public, où il devrait y avoir 10% du parc immobilier qui devrait être du mobilier de seconde main.
D'accord.
Donc il y a déjà des démarches qui sont faites.
C'est en train de se faire.
Exactement.
Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un gaspillage énorme hein, en termes de bon, mobilier, ouais. Justement, dans les entreprises, bah, notamment avec le télétravail. Bon, là, on y revient. Et je ne sais pas si vous me le confirmez ou pas.
Oui, oui, tout à fait. En fait, pour revenir sur la seconde main, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut avoir le bon timing. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises veulent avoir des locaux qui soient plus attirants pour justement attirer les talents à retenir. Donc, ils font des projets assez, assez fougueux de temps en temps. Et ça, c'est notre job. Et le mobilier qui est récupéré de seconde main n'est pas forcément adapté. C'est là où on a une problématique. C'est que vous avez du mobilier. Par exemple, je vais prendre un cas concret. Le mobilier qui a été récupéré à la SNCF dans le 15e arrondissement, par exemple, c'est du grand mobilier qui n'est plus du tout adapté au nouveau mode de travail où on travaille sur des espaces beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus fun, etc. Mmh. Donc, c'est comment je vais pouvoir... C'est bien d'avoir du seconde main, mais c'est pour avoir un parc qui est stocké quelque part, mais qu'on ne réutilise pas, il n'y a aucun intérêt. Donc, du coup, il faut trouver des bons éléments qui soient réadaptables.
On est à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Pour vous, c'est important cet événement. Qu'est-ce que vous y attendez, Franck, peut-être, et puis après vous, Pierre-Alexandre.
Écoutez, pour moi, c'est une première déjà. On nous a vivement recommandé de venir y participer. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que nombreux sont entrepreneurs, tous les gens qui sont là. Donc ça permet de parfois aussi d'échanger. De se conseiller, vous voyez là, ouais. On rencontre, on parle d'un sujet auquel on est, enfin sur lequel je vais être concerné, donc ça m'intéresse aussi d'échanger avec des experts du domaine. Et puis ça nous permet de prendre une certaine tendance, un petit peu quelle est la mentalité de tous ces entrepreneurs, dans quel état d'esprit ils sont après les vacances pour ceux qui ont pu en prendre. Donc ça permet aussi d'avoir ce feeling. Et puis bon, on voit tout ce qui peut être annoncé sur le plan gouvernement également, parce qu'on échange aussi sur toutes ces mesures. Encore une fois, on va en reparler probablement de la pénurie, comment les gens le prennent. Voilà, moi j'ai envie de dire que on est un pays fort, on a des gens qui sont plein de volonté, qui ont envie de remonter les manches. Ça m'agace toujours un petit peu quand on dit oui, on redémarre la rentrée avec pas forcément un bon état d'esprit et ainsi de suite. Ça m'agace toujours parce que après on tombe dans ce cercle, ah ouais, ça va mal, bah oui, mais...
C'est juste une nouvelle ère en fait,
voilà,
voir le côté un peu plus positivement.
C'est ma façon de voir les choses, donc... Et c'est ce que
vous
je dis à mes équipes, c'est ce que je dis à mes équipes aussi, donc on n'est pas arrivé encore, hein, on démarre, mais... On a tellement de choses à faire.
Donc vous n'êtes pas trop d'accord avec la formulation du gouvernement, la fin de l'abondance.
Je ne sais pas ce que c'est. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Moi, je suis entrepreneur, j'ai toujours fait attention
à tout.
À tout. Donc, quand on me parle de l'abondance, je ne sais pas ce que c'est, en fait.
Clairement.
Je ne me sens pas concerné par ça, donc ça me gêne toujours un peu. Voilà.
Vous aussi, Pierre-Alexandre.
Oui, l'abondance, c'est quand même un sujet qui, quand on est entrepreneur, on est toujours dans le positif, dans le négatif, dans la difficulté. Dans la concertation. Ouais.
On n'a pas de répit, en fait, quand on est entrepreneur.
Et voilà, donc l'abondance, en fait, on ne la vit pas. Quoi.
Ben oui.
Donc, voilà.
Et alors, pour finir, vous, Pierre-Alexandre, la REF
Je dirais dans la même lignée que Franck, c'est prendre une tendance. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est d'être au contact d'entrepreneurs qui ont les mêmes difficultés ou les mêmes opportunités ou d'autres opportunités et de partager ces moments-là. C'est un peu un bilan. Je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est à la rentrée. En effet, certains ont pu prendre des vacances et d'autres non, mais on repart sur une bonne dynamique et je crois qu'il faut rester positif et c'est ce que doit être cet événement. D'ailleurs, c'est garder ce côté optimiste, positif de l'économie, puisque globalement, ça va quand même plutôt bien.
Eh bien, c'est un bon mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau et restons positifs. Merci Pierre-Alexandre Pillet et merci Franck Legardeur d'être
venus
sur notre plateau. On se retrouve tout de suite pour une prochaine interview.
Merci.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.